Chapitre 3, suite et fin. Christophe venait d'avoir une dispute assez vive avec Ada. Il se boudait depuis le matin. Par extraordinaire, Ada n'avait pas pris l'air digne et froissé qu'elle adoptait en pareil cas afin de se venger, en se rendant aussi insupportablement ennuyeuse que possible. Pour cette fois, elle feignait simplement d'ignorer l'existence de Christophe, et elle était d'excellente humeur avec les deux autres compagnons. On eût dit qu'au fond, elle n'était pas fâchée de cette brouille. Christophe avait, au contraire, un grand désir de faire la paix. Il était plus épris que jamais. À sa tendresse se joignait un sentiment de reconnaissance pour tout ce que leur amour avait eu de bienfaisant, un regret d'en gaspiller les heures par de stupides disputes et des pensées mauvaises, et la crainte sans raison, l'idée mystérieuse que cet amour allait finir. Il regardait avec mélancolie le joli visage de Ada qui feignait de ne point le voir et qui riait avec les autres. Et ce visage éveillait en lui tant de chers souvenirs, d'amour profond, d'intimité sincère. Ce visage charmant avait même, par moments, il avait en ce moment, tant de bonté et un sourire si pur, que Christophe se demandait pourquoi ce n'était pas mieux entre eux. Pourquoi ils se gâtaient à plaisir leur bonheur, pourquoi elle s'acharnait à oublier les heures lumineuses, à démentir ou à combattre ce qu'elle avait de brave et d'honnête en elle. Quelle étrange satisfaction elle pouvait trouver à troubler, à souiller, ne fût-ce qu'en pensée, la pureté de leur affection. Il sentait un immense besoin de croire en ce qu'il aimait, et il essayait, une fois de plus, de se faire illusion. Il se reprochait d'être injuste, il avait remords des pensées qu'il lui prêtait et de son manque d'indulgence. Il se rapprocha d'elle, il essaya de lui parler. Elle lui répondit quelques paroles sèches. Elle n'avait aucun désir de se réconcilier avec lui. Il insista, il la pria à l'oreille de vouloir bien l'entendre un instant à part des autres. Elle le suivit d'assez mauvaise grâce. Lorsqu'ils furent à quelques pas, et que ni Mira ni Ernst ne pouvaient plus les voir, il lui prit brusquement les mains. Il lui demanda pardon, il s'agenouilla devant elle, dans le bois, au milieu des feuilles mortes. Il lui dit qu'il ne pouvait plus vivre ainsi, brouillé avec elle. Il ne pouvait plus jouir de la promenade, de la belle journée, il ne pouvait plus jouir de rien, il ne pouvait même plus respirer, sachant qu'elle le détestait. Il avait besoin qu'elle l'aimât. Oui, il était injuste souvent, violent, désagréable. Il la supplia de lui pardonner. La faute en était à son amour même. Il ne pouvait supporter rien de médiocre en lui, rien qui ne fût tout à fait digne d'elle et des souvenirs de leur cher passé. Il les lui rappela. Il lui rappela leur première rencontre, leur premier jour ensemble. Il dit qu'il l'aimait toujours autant, qu'il l'aimerait toujours. Qu'elle ne s'éloigna pas de lui. Elle était tout pour lui. Ada l'écoutait, souriante, troublée, presque attendrie. Elle lui faisait ses bons yeux, les yeux qui disent qu'on s'aime et qu'on n'est plus fâché. Ils s'embrassèrent et ils allaient, serrés l'un contre l'autre, dans le bois dépouillé. Elle trouvait Christophe gentil et elle lui savait gré de ses tendres paroles. Mais elle n'abandonnait rien pour cela des caprices malfaisants qu'elle avait dans la tête. Elle hésitait pourtant, elle n'y tenait plus autant. Elle n'en fit pas moins ce qu'elle avait projeté. Pourquoi? Qui peut le dire? Parce qu'elle s'était promis avant qu'elle le ferait? Qui sait? Il lui semblait peut-être plus piquant de tromper son amie ce jour-là, pour lui prouver, pour se prouver à elle-même sa liberté. Elle ne pensait pas le perdre, elle ne l'eût pas voulu. Elle se croyait plus sûre de lui que jamais. Ils étaient arrivés à une clairière dans la forêt. Deux sentiers s'en détachaient. Christophe prit l'un. Ernst prétendit que l'autre menait plus rapidement au sommet de la colline, où il voulait aller. Ada fut de son avis. Christophe, qui connaissait le chemin pour l'avoir souvent pris, soutint qu'il se trompait. Ils n'en démordirent pas. Alors il fut convenu qu'on ferait l'expérience, et chacun paria qu'il arriverait le premier. Ada partit avec Ernst. Mira accompagna Christophe. Elle feignait d'être convaincue qu'il avait raison, et elle ajoutait « comme toujours ». Christophe avait pris le jeu au sérieux, et comme il n'aimait point perdre, il marchait vite, trop vite au gré de Mira, qui avait beaucoup moins de hâte que lui. « Ne te presse donc pas, mamie, lui disait-elle, de son ton ironique et tranquille. « Nous arriverons toujours avant. » Il fut pris d'un scrupule. « C'est vrai, dit-il, je crois que je vais un peu trop vite. Ce n'est pas de jeu. » Il ralentit le pas. « Mais je les connais, continua-t-il. Je suis sûr qu'ils courent pour être là avant nous. » Mira éclata de rire. « mais non, ne t'inquiète pas. » Elle se pendait à son bras. Elle se pressait étroitement contre lui. Un peu plus petite que Christophe, elle levait vers lui, en marchant, ses yeux intelligents et caressants. Elle était vraiment jolie et séduisante. Il la reconnaissait à peine. Nul n'était plus changeant. Dans la vie ordinaire, elle avait la figure un peu blême et bouffie. Et puis, il suffisait de la moindre excitation, d'une pensée joyeuse ou du désir de plaire, pour que cet air vieillot disparût, pour que ses joues rosissent, pour que les plis des paupières au-dessous et autour des yeux s'effaçassent, pour que le regard s'allumât, et pour que toute la physionomie prît une jeunesse, une vie et un esprit que celle de Ada n'avait point. Christophe était surpris de sa métamorphose, et il détournait les yeux des siens. Il était un peu troublé d'être seul avec elle. Elle le gênait, elle l'empêchait de rêver à son aise. Il n'écoutait pas ce qu'elle disait, il ne lui répondait pas, ou bien tout de travers. Il pensait, il voulait penser uniquement à Ada. Il pensait aux bons yeux qu'elle avait tout à l'heure, à son sourire, à son baiser, et son cœur débordait d'amour. Mira voulut lui faire admirer comme les bois étaient beaux, avec leurs petites branches fines sur le ciel clair. Oui, tout était beau. Le nuage s'était dissipé. Ada lui était revenue. Il avait réussi à briser la glace qui était entre eux. Ils s'aimaient de nouveau. Près ou loin l'un de l'autre, ils ne faisaient plus qu'un. Ils respiraient avec soulagement. Que l'air était léger. Ada lui était revenue. Tout la lui rappelait. Il faisait un peu humide, n'aurait-elle pas froid? Les jolis arbres étaient poudrés de givre. Quel dommage qu'elle ne les vit pas. Mais il se rappelait le pari engagé et il hâtait le pas. Il était préoccupé de ne pas se tromper de chemin. Il triompha en arrivant au but. Nous sommes les premiers. Il agitait joyeusement son chapeau. Mira le regardait en souriant. L'endroit où il se trouvait était un long rocher abrupt au milieu des bois. De la plateforme du sommet, bordée de buissons de noisetiers et de petits chênes rabougris, il dominait les pentes boisées, les cimes des sapins qu'enveloppait une brume violette, et le long ruban du Rhin dans la vallée bleutée. Nul cri d'oiseau, nulle voix, pas un souffle. Une journée immobile et recueillie d'hiver qui se chauffe frileusement aux pâles rayons d'un soleil engourdi. Par instants, dans le lointain, le bref sifflet d'un train dans la vallée. Christophe, debout au bord du rocher, contemplait le paysage. Mira contemplait Christophe. Il se retourna vers elle d'un air de bonne humeur. « Eh bien, elle est paresseuse, je le leur avais bien dit. Bon, il n'y a qu'à les attendre. » Il s'étendit au soleil, sur la terre crevassée. « C'est cela, attendons, » dit Mira, se décoiffant. Elle avait dans le ton quelque chose de si persifleur qu'il se releva et la regarda. « Quoi donc ? » demanda-t-elle tranquillement. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« Je dis, attendons. Ce n'était pas la peine de me faire courir si vite. »« C'est vrai. » Ils attendirent, couchés tous deux sur le sol raboteux. Mira chantonnait un air. Christophe en chantonnait quelques phrases, mais il s'interrompait à tout moment, l'oreille aux aguets. « Je crois que je les entends. » Mira continuait de chanter. « Tais-toi un instant, veux-tu ? » Mira s'interrompait. « Non, ce n'est rien. » Elle reprenait sa chanson. Christophe ne tenait plus en place. Ils se sont peut-être perdus. Perdus ? On ne peut pas se perdre. Ernst sait tous les chemins. Une idée baroque traversa la tête de Christophe. S'ils étaient arrivés les premiers, et s'ils étaient repartis d'ici avant notre arrivée. Mira, étendue sur le dos et regardant le ciel, fut prise d'un fou rire au milieu de son chant et faillit s'étrangler. Christophe s'obstinait. Il voulait redescendre la station où il disait que leurs amis devaient être déjà. Mira se décida enfin à sortir de son immobilité. Ce serait le bon moyen de les perdre. Il n'a jamais été question de la station. C'est ici qu'on doit se retrouver. Il se rassit près d'elle. Elle s'amusait de son attente. Il sentait son regard ironique qui l'observait. Il commençait à s'inquiéter sérieusement, à s'inquiéter pour eux. Il ne les soupçonnait pas. Il se leva de nouveau. Il parla de retourner dans le bois, de les chercher, de les appeler. Mira eut un petit gloussement. Elle avait tiré de sa poche une aiguille, des ciseaux et du fil, et elle défaisait et repiquait tranquillement les plumes de son chapeau. Elle semblait installée pour tout un jour. « mais non, bêta, dit-elle. S'il voulait venir, est-ce que tu crois qu'il ne viendrait pas tout seul ?» Il fut frappé au cœur. Il se retourna vers elle. Elle ne le regardait pas, elle était occupée de son ouvrage. Il s'approcha. « Mira, dit-il. Hé, fit-elle sans s'interrompre. Il s'agenouilla pour la regarder de plus près. « Mira, répéta-t-il. Eh bien donc, demanda-t-elle en levant les yeux de son ouvrage et le regardant en souriant, qu'est-ce qu'il y a ? » Elle eut une expression railleuse en voyant sa figure bouleversée. « Mira, demanda-t-il, la gorge contractée, dis-moi ce que tu penses. » Elle haussa les épaules, sourit, et se remit à travailler. Il lui prit les mains, il lui enleva le chapeau qu'elle cousait. « laisse cela, et dis-moi. » Elle le regarda en face et attendit. Elle voyait les lèvres de Christophe qui tremblaient. « Tu penses, dit-il tout bas, que Ernst et Ada ?» Elle sourit. « Parbleu !» Il eut un sursaut d'indignation. « Non, non, ce n'est pas possible. Tu ne penses pas cela. Non, non !» Elle lui mit ses mains sur les épaules et se tordit de rire. « Que tu es bête ! Que tu es bête, mon chéri !» Il la secoua violemment. « Ne ris pas ! Pourquoi ris-tu ? Tu ne rirais pas si c'était vrai. Tu aimes Ernst. » Elle continuait de rire, et l'attirant vers elle, elle l'embrassa. Malgré lui, il lui rendit son baiser. Mais quand il sentit sur ses lèvres chaudes encore des baisers fraternels, il se rejeta en arrière. Il lui maintint la tête à quelque distance de la sienne. Il demanda, « Tu le savais ? C'était convenu entre vous ?» Et elle fit, « Oui, en riant. » Christophe ne cria point. Il n'eut pas un mouvement de colère. Il ouvrit la bouche comme s'il ne pouvait plus respirer. Il ferma les yeux et se serra la poitrine avec ses mains. Son cœur éclatait. Puis il se coucha par terre, la tête enfoncée dans ses mains, et il fut secoué par une crise de dégoût et de désespoir, comme quand il était enfant. Mira, qui n'était pas très tendre, eut pitié de lui. Elle eut, sans le vouloir, un élan de compassion maternelle. Elle se pencha sur lui, elle lui parla affectueusement, elle voulut lui faire respirer son flacon de sel. Mais il la repoussa avec horreur, et il se releva si brusquement qu'elle eut peur. Il n'avait ni la force ni le désir de se venger. Il la regarda avec une figure convulsée de douleur. « Gueuse, dit-il accablé, tu ne sais pas tout le mal que tu fais. » Elle voulut le retenir. Il s'enfuit à travers bois, crachant son dégoût de ses ignominies, de ses cœurs de boue et de l'incestueux partage auquel ils avaient prétendu l'amener. Il pleurait, il tremblait, il sanglotait de dégoût. Il avait horreur d'elle, de tous, de lui-même, de son corps et de son cœur. Un ouragan de mépris se déchaînait en lui. Depuis longtemps, il se préparait. Tôt ou tard, la réaction devait venir contre la bassesse des pensées, les compromis avilissants, l'atmosphère fade et empestée où il vivait depuis quelques mois. Mais le besoin d'aimer, le besoin de se tromper sur ce qu'il aimait, avait retardé la crise tant qu'il avait été possible. Elle éclatait tout d'un coup. Et c'était mieux ainsi. C'était un grand souffle d'air et d'âpre pureté, une bise glacée qui balayait les miasmes. Le dégoût avait tué, d'un coup, l'amour de Ada. Si Ada avait cru établir plus solidement par cet acte sa domination sur Christophe, cela prouvait, une fois de plus, son inintelligence grossière de celui qui l'aimait. La jalousie qui attache les cœurs souillés ne pouvait que révolter une nature jeune, orgueilleuse et pure comme celle de Christophe. Mais ce qu'il ne pardonnait pas surtout, ce qu'il ne pardonnerait jamais, c'était que cette trahison n'était pas chez Ada le fait d'une passion, à peine d'un de ces caprices absurdes et dégradants, mais souvent irrésistibles, auxquels la raison féminine a peine quelquefois à ne pas céder. Non, il comprenait maintenant, c'était chez elle un désir secret de le dégrader, de l'humilier, de le punir de sa résistance morale, de sa foi ennemie, de le faire tomber au niveau commun, de le mettre à ses pieds, de se prouver à soi-même sa force malfaisante. Et il se demandait avec horreur, mais qu'est-ce donc que ce besoin de souiller, qui est chez la plupart, de souiller ce qui est pur en eux et dans les autres, ces âmes de pourceaux qui goûtent une volupté à se rouler dans l'ordure, heureux quand il ne reste plus sur toute la surface de leur épiderme une seule place nette. Ada attendit 2 jours que Christophe revint. Puis elle commença à s'inquiéter et lui envoya un billet caressant où elle ne faisait allusion à rien de ce qui s'était passé. Christophe ne répondit même point. Il haïssait Ada d'une haine si profonde qu'il n'avait même plus de mots pour l'exprimer. Il l'avait rayée de sa vie. Elle n'existait plus pour lui. Christophe était délivré de Ada, mais il ne l'était pas de lui-même. C'était en vain qu'il tâchait de se faire illusion et de revenir au calme chaste et fort du passé. On ne revient pas au passé. Il faut continuer sa route. Et il ne sert à rien de se retourner, sinon pour voir les lieux où l'on passa, les lointaines fumées du toit sous lequel on dormit, s'effaçant à l'horizon dans la brume du souvenir. Mais rien ne nous éloigne davantage de nos âmes anciennes que quelques mois de passion. Le chemin tourne brusquement, le paysage change. Il semble qu'on dise adieu pour la dernière fois à ce qu'on laisse derrière soi. Christophe n'y pouvait consentir. Il tendait les bras vers le passé. Il s'obstinait à faire revivre son âme d'autrefois, seule et résignée. Mais elle n'existait plus. La passion est moins dangereuse par elle-même que par les ruines qu'elle accumule. Christophe avait beau ne plus aimer, il avait beau, pour un moment, mépriser l'amour, il était marqué de sa griffe. Tout son être était pétri par lui. Il y avait dans son cœur un vide qu'il fallait remplir. À défaut de ce terrible besoin de tendresse et de plaisir qui consume les êtres qui y ont une fois goûté, il fallait quelque autre passion, fût-ce la passion contraire, la passion du mépris, de l'orgueilleuse pureté, de la foi dans la vertu. Elle ne suffisait pas. Elle ne suffisait plus à assouvir sa faim. Elle n'était qu'un aliment d'un instant. Sa vie était une suite de réactions violentes, des sauts d'un extrême à l'autre. Tantôt il la voulait ployer aux règles, d'un ascétisme inhumain. Ne mangeant plus, buvant de l'eau, se tuant le corps de marche, de fatigue, de veille, se refusant tout plaisir. Tantôt il se persuadait que la force est la vraie morale chez les gens de sa sorte, et il se lançait à la chasse de la joie. Dans l'un et l'autre cas, il était malheureux. Il ne pouvait plus être seul. Il ne pouvait plus ne plus l'être. L'unique salut pour lui, c'eût été de trouver une vraie amitié, celle de Rosa peut-être. Il s'y fut réfugié. Mais la brouille était complète entre les deux familles. Il ne se voyait plus. Une seule fois, Christophe avait rencontré Rosa. Elle sortait de la messe. Il avait hésité à l'aborder. Et elle, de son côté, avait fait, en le voyant, un mouvement pour venir à sa rencontre. Mais quand il voulut aller à elle, au travers du flot des fidèles qui descendaient les marches, elle détourna les yeux, et quand il fut près d'elle, elle le salua froidement et passa. Il sentait dans le cœur de la jeune fille un mépris intense et glacé, et il ne sentait pas qu'elle l'aimait toujours, et eût voulu le lui dire, mais elle se le reprochait comme une faute et une sottise. Elle croyait Christophe mauvais et corrompu, plus loin d'elle que jamais. Ainsi, ils se perdirent l'un pour l'autre pour toujours. Et ce fut peut-être un bien, pour l'un comme pour l'autre. En dépit de sa bonté, elle n'était pas assez vivante pour le comprendre. En dépit de son besoin d'affection et d'estime, il eût étouffé dans une vie médiocre et renfermée, sans joie, sans peine et sans air. Ils eussent souffert tous deux de se faire souffrir. La mauvaise chance qui les sépara fut donc, en fin de compte, une bonne chance, peut-être, comme il arrive souvent, comme il arrive toujours, à ceux qui sont forts et qui durent. Mais, sur l'instant, ce fut une grande tristesse et un grand malheur pour eux, pour Christophe surtout. Cette intolérance de vertu, cette étroitesse de cœur qui parfois semble priver totalement d'intelligence ceux qui en ont le plus, et de bonté ceux qui sont les meilleurs, l'irrita, le blessa, le rejeta pour protester dans une vie plus libre. Au cours de ses flâneries avec Ada dans les guinguettes des environs, il avait fait connaissance avec quelques bons garçons, des bohèmes dont l'insouciance et la liberté de façon ne lui avaient pas trop déplu. Un d'entre eux, Friedman, musicien comme lui, organiste d'une 30aine d'années, ne manquait pas d'esprit et connaissait bien son métier, mais il était d'une paresse incurable. Et plutôt que de faire le moindre effort pour sortir de sa médiocrité, il se fut laissé mourir de faim, sinon peut-être de soif. Il se consolait de son indolence en disant du mal de ceux qui s'agitent dans la vie, Dieu sait pourquoi, et ses railleries un peu lourdes ne laissaient point de faire rire. Plus libre que ses confrères, il ne craignait pas, bien timidement encore, avec des clignements d'yeux et des sous-entendus, de fronder les gens en place. Il était même capable de ne pas avoir en musique des opinions toutes faites, et de porter sournoisement un coup de pioche aux réputations usurpées des grands hommes du jour. Les femmes ne trouvaient pas grâce davantage devant lui. Il aimait, en plaisantant, à redire à leur propos un vieux mot de moine misogyne dont Christophe goûtait en ce moment mieux que quiconque l'âpreté. Femina mors animée, la femme morte l'âme. Dans son désarroi, Christophe trouva quelques distractions à causer avec Friedman. Il le jugeait, il ne pouvait se plaire longtemps à cet esprit de persiflage vulgaire. Ce ton de raillerie et de négation constante ne tardait pas à devenir irritant, et sentait l'impuissance. Mais il soulageait de la bêtise suffisante des Philistins. Tout en méprisant au fond son compagnon, Christophe ne pouvait plus se passer de lui. On les voyait toujours ensemble, attablés avec des personnages déclassés et douteux de la société de Friedman, et qui valaient encore moins cher que lui. Il jouait, il pérorait, il buvait pendant des soirs entiers. Christophe se réveillait tout à coup au milieu de l'écœurante odeur de charcuterie et de tabac. Il regardait ceux qui l'entouraient avec des yeux égarés. Il ne les reconnaissait plus. Il pensait avec angoisse, où est-ce que je suis? Qu'est-ce que ces gens? Qu'ai-je à faire avec eux? Leurs propos et leurs rires lui donnaient la nausée, mais il n'avait pas la force de les quitter. Il avait peur de rentrer chez lui, de se retrouver seul, en face de son âme, de ses désirs, de ses remords. Il se perdait, il savait qu'il se perdait. Il cherchait. Il voyait dans Friedman, avec une lucidité cruelle, l'image dégradée de ce qu'il était, de ce qu'il serait un jour. Et il traversait une phase de découragement et de dégoût telle qu'au lieu d'être réveillé par cette menace, elle achevait de l'abattre. Il se fût perdu s'il avait pu l'être. Par bonheur, il avait, comme les êtres de son espèce, un ressort et un recours contre la destruction que les autres n'ont pas. Sa force d'abord, son instinct de vivre, de ne pas se laisser mourir. Plus intelligent que son intelligence, plus fort que sa volonté. Et il avait aussi, à son insu, l'étrange curiosité de l'artiste, cette impersonnalité passionnée que porte en lui tout être doué vraiment du pouvoir créateur. Il avait beau aimer, souffrir, se donner tout entier à toutes ses passions, il les voyait. Elles étaient en lui, mais elles n'étaient pas lui. Une myriade de petites âmes gravitaient obscurément en lui, vers un point fixe, inconnu et certain. Tel le monde planétaire, qu'aspire dans l'espace un gouffre mystérieux. Cet état perpétuel de dédoublement inconscient se manifestait surtout dans les moments vertigineux où la vie quotidienne s'endort et où surgit des abîmes du sommeil et de la nuit le regard du sphinx, la face multiforme de l'être. Surtout depuis un an, Christophe était obsédé par des rêves où il sentait nettement, dans une même seconde, avec une illusion absolue, qu'il était à la fois plusieurs êtres différents, souvent lointains, séparés par des pays, par des mondes, par des siècles. Dans l'état de veille, Christophe en conservait le trouble hallucinant, sans avoir le souvenir de ce qu'il avait causé. C'était comme la fatigue d'une idée fixe disparue, dont la trace persiste, sans qu'on puisse la comprendre. Mais tandis que son âme se débattait douloureusement dans le réseau des jours, une autre âme assistait en lui, attentive et sereine, à ses efforts désespérés. Il ne la voyait pas, mais elle jetait sur lui la réverbération de sa lumière cachée. Cette âme était avide et joyeuse de tout sentir, de tout souffrir, d'observer et de comprendre ces hommes, ces femmes, cette terre, cette vie, ses désirs, ses passions, ses pensées, même torturantes, même médiocres, même viles. Et cela suffisait à leur communiquer un peu de sa lumière, à sauver Christophe du néant. Elle lui faisait sentir que, il ne savait comment, il n'était pas seul tout à fait. Cet amour de tout être et de tout connaître, cette seconde âme, opposait son rempart aux passions destructrices. Mais si elle suffisait à lui maintenir la tête au-dessus de l'eau, elle ne lui permettait pas d'en sortir avec ses seules forces. Il ne parvenait pas à voir clairement en soi, à se maîtriser et à se recueillir. Tout travail lui était impossible. Il traversait une crise intellectuelle la plus féconde de sa vie. Toute sa vie future y était déjà en germe. Mais cette richesse intime ne se traduisait pour le moment que par des extravagances. Et les effets immédiats d'une telle surabondance ne différaient pas de ceux de la stérilité la plus indigente. Christophe était submergé par sa vie. Toutes ses forces avaient subi une formidable poussée et grandi trop vite, toutes à la fois, tout d'un coup. Sa volonté seule n'avait pas grandi aussi vite, et elle était affolée par cette foule de monstres. La personnalité craquait de toutes parts. De ce tremblement de terre, de ce cataclysme intérieur, les autres ne voyaient rien. Christophe lui-même ne voyait que son impuissance à vouloir, à créer et à être. Désir, instinct, pensée sortaient les uns après les autres, comme des nuages de soufre des fissures d'un volcan. Et il se demandait toujours, « Et maintenant, que sortira-t-il? Qu'adviendra-t-il de moi? Sera-ce toujours ainsi, ou sera-ce tout à fait fini? Ne serai-je rien, jamais ?» Et voici que surgissaient maintenant les instincts héréditaires, les vices de ceux qui avaient été avant lui. Il s'enivra. Il rentrait à la maison, sentant le vin, riant, accablé. La pauvre Louisa le regardait, soupirait, ne disait rien et priait. Mais un soir qu'il sortait d'un cabaret aux portes de la ville, il aperçut sur la route, à quelques pas devant lui, l'ombre falote de l'oncle Gottfried, son ballot sur le dos. Depuis des mois, le petit homme n'était pas revenu au pays et ses absences se faisaient toujours plus longues. Christophe le héla, tout heureux. Gottfried, courbé sous son fardeau, se retourna. Il regarda Christophe, qui se livrait à une mimique extravagante, et il s'assit sur une borne pour l'attendre. Christophe, la figure animée, s'approcha en exécutant une sorte de gambade, et il secoua la main de l'oncle avec de grandes démonstrations d'affection. Gottfried le regarda longuement, puis il dit « Bonjour, Melchior ». Christophe crut que l'oncle se trompait, et il éclata de rire. « Le pauvre homme baisse, pensa-t-il. Il perd la mémoire. » Gottfried avait en effet l'air vieilli, ratatiné, rapetissé, rabougri. Il respirait d'un petit souffle pénible et court. Christophe continuait à pérorer. Gottfried remonta son ballot sur ses épaules et se remit silencieusement en marche. Ils revinrent côte à côte, Christophe gesticulant et parlant à tue-tête, Gottfried tout sautant, se taisant. Et comme Christophe l'interpellait, Gottfried l'appela encore Melchior. Cette fois, Christophe lui demanda « Ah, ça, qu'est-ce que tu as à m'appeler Melchior? Je m'appelle Christophe, tu le sais bien. As-tu oublié mon nom ?» Gottfried, sans s'arrêter, leva les yeux vers lui, le regarda, secoua la tête et dit froidement « Non, tu es Melchior, je te reconnais bien. » Christophe s'arrêta atterré. Gottfried continuait de trottiner. Christophe le suivit sans répliquer. Il était dégrisé. En passant près de la porte d'un café-concert, il alla aux mornes glaces qui reflétaient les becs de gaz de l'entrée et les pavés déserts. Il se regarda. Il reconnut Melchior. Il rentra bouleversé. Il passa la nuit, une nuit d'angoisse, à s'interroger, à se fouiller l'âme. Il comprenait maintenant. Oui, il reconnaissait les instincts et les vices qui avaient levé en lui. Il lui faisait horreur. Il songea à la veillée funèbre, auprès de Melchior mort, aux engagements pris, et il repassa en revue sa vie depuis. Il les avait tous trahis. Qu'avait-il fait depuis un an? Qu'avait-il fait pour son Dieu, pour son art, pour son âme? Qu'avait-il fait pour son éternité? Pas un jour qui n'eût été perdu, gâché, souillé. Pas une œuvre, pas une pensée, pas un effort durable. Un chaos de désirs se détruisant l'un l'autre. Vent, poussière, néant. Que lui avait servi de vouloir? Il n'avait rien fait de ce qu'il avait voulu. Il avait fait le contraire de ce qu'il avait voulu. Il était devenu ce qu'il ne voulait pas être. Voilà le bilan de sa vie. Il ne se coucha point. Vers 6 heures du matin, il faisait nuit encore. Il entendit Gottfried qui se préparait à partir, car Gottfried n'avait pas voulu s'arrêter davantage. En passant par la ville, il était venu, suivant son habitude, embrasser sa sœur et son neveu. Mais il avait annoncé que, le lendemain matin, il se remettrait en marche. Christophe descendit. Gottfried vit sa figure blême, creusée par une nuit de douleur. Il lui sourit affectueusement. Il lui demanda s'il voulait l'accompagner un peu. Ils sortirent ensemble avant l'aube. Ils n'avaient pas besoin de parler. Ils se comprenaient. En passant près du cimetière, Gottfried dit « Entrons, veux-tu ?» Jamais il ne manquait de faire une visite à Jean-Michel et à Melchior quand ils venaient au pays. Christophe n'était pas entré là depuis un an. Gottfried s'agenouilla devant la fosse de Melchior et dit « Prions pour qu'il dorme bien et qu'il ne nous tourmente pas. » Sa pensée était un mélange de superstitions étranges et de clair bon sens. Elle surprenait parfois Christophe, mais cette fois il ne la comprit que trop. Ils ne dirent rien de plus jusqu'à ce qu'ils fussent sortis du cimetière. Comme ils avaient refermé la grille gémissante et suivaient le long du mur, dans les champs frileux qui s'éveillaient, le petit sentier qui passait sous les cyprès des tombes, d'où la neige s'égouttait, Christophe se mit à pleurer. « Ah, oncle, dit-il, que je souffre !» Il n'osait lui parler de l'épreuve qu'il avait faite de l'amour, par une peur bizarre de gêner ou de blesser Gottfried. Mais il parla de sa honte, de sa médiocrité, de sa lâcheté, de ses engagements violés. « Oncle, que faire ? J'ai voulu, j'ai lutté, et après un an je suis au même point qu'avant. Même pas, j'ai reculé. Je ne suis bon à rien, je ne suis bon à rien. J'ai perdu ma vie, je me suis parjuré. » Il montait la colline au-dessus de la ville. Gottfried dit avec bonté, « Ce n'est pas la dernière fois, mon petit. On ne fait pas ce qu'on veut. On veut et on vit. Cela fait deux. Il faut se consoler. L'essentiel, vois-tu, c'est de ne pas se lasser de vouloir et de vivre. Le reste ne dépend pas de nous. » Christophe répétait avec désespoir, « Je me suis parjuré. » « Entends-tu ?» dit Gottfried. Des coqs chantaient dans la campagne. Ils chantaient aussi pour un autre qui s'est parjuré. Ils chantent pour chacun de nous, chaque matin. « Un jour viendra, dit Christophe amèrement, où ils ne chanteront plus pour moi. Un jour sans lendemain. Et qu'aurais-je fait de ma vie ?»« Il y a toujours un lendemain, dit Gottfried. Mais que faire s'il ne sert à rien de vouloir ? Veille et prie. Je ne crois plus. » Gottfried sourit. « Tu ne vivrais pas si tu ne croyais pas. Chacun croit. Prie. Priez quoi ?» Gottfried lui montra le soleil qui paraissait dans l'horizon rouge et glacé. « Sois pieux devant le jour qui se lève. Ne pense pas à ce qui sera dans un an, dans 10 ans. Pense à aujourd'hui. Laisse tes théories. Toutes les théories, vois-tu, même celles de vertu, sont mauvaises, sont sottes, font le mal. Ne violente pas la vie. Vise aujourd'hui, sois pieux envers chaque jour. Aime-le, respecte-le, ne le flétris pas surtout, ne l'empêche pas de fleurir. Aime-le, même quand il est gris et triste, comme aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. Vois, c'est l'hiver maintenant. Tout dort. La bonne terre se réveillera. Il n'y a qu'à être une bonne terre, et patiente comme elle. Sois pieux. Attends. Si tu es bon, tout ira bien. Si tu ne l'es pas, si tu es faible, si tu ne réussis pas, eh bien, il faut encore être heureux ainsi. C'est sans doute que tu ne peux davantage. Alors pourquoi vouloir plus? Pourquoi te chagriner de ce que tu ne peux pas faire? Il faut faire ce qu'on peut. « Als ich kann. »« C'est trop peu, dit Christophe, en faisant la grimace. » Gottfried rit amicalement. « C'est plus que personne ne fait. Tu es un orgueilleux. Tu veux être un héros. C'est pour cela que tu ne fais que des sottises. Un héros, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais vois-tu, j'imagine, un héros, c'est celui qui fait ce qu'il peut. Les autres ne le font pas. » « Ah, soupira Christophe, à quoi bon vivre alors ? Cela n'en vaut pas la peine. Il y a pourtant des gens qui disent que vouloir, c'est pouvoir. » Gottfried rit de nouveau, doucement. « Oui, eh bien ce sont de grands menteurs, mon petit. Ou ils ne veulent pas grand-chose. » Ils étaient arrivés au sommet de la colline. Ils s'embrassèrent affectueusement. Le petit colporteur s'en alla de son pas fatigué. Christophe resta, pensif, le regardant s'éloigner. Il se redisait le mot de l'oncle, « als ich kann », comme je peux. Et il sourit, pensant, « oui, tout de même, c'est assez. » Il revint vers la ville. La neige durcie craquait sous ses souliers. La bise aigre d'hiver faisait tressaillir, sur la colline, les branches nues des arbres rabougris. Elle rougissait ses joues, elle brûlait sa peau, elle fouettait son sang. Les toits rouges des maisons en bas riaient au soleil éclatant et froid. L'air était fort et dur. La terre glacée semblait jubiler d'une âpre allégresse. Le cœur de Christophe était comme elle. Il pensait « je me réveillerai aussi ». Il avait encore des larmes aux yeux. Il les essuya du revers de sa main et regarda en riant le soleil qui s'enfonçait sous un rideau de vapeur. Les nuées, lourdes de neige, passaient au-dessus de la ville, fouettées par la bourrasque. Il leur fit un pied de nez. Le vent glacial soufflait. « Souffle, souffle, fais ce que tu veux de moi. Emporte-moi, je sais bien où j'irai. »